Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. L'appel lancé par le président de la République à son homologue rwandais vise essentiellement l'arrêt des violences et le développement économique de la région des Grands Lacs. C'est l'explication du gouvernement congolais sur les propos du président Tshisekedi jeudi à Bruxelles. La première ministre Judith Suminwa s'est exprimée ainsi au conseil des ministres qu'elle a présidé vendredi à Kinshasa. Progression spectaculaire dans certaines écoles du Tanganyika. Grâce à la construction des nouvelles salles de classe et la mise en place des cantines scolaires et des jardins scolaires par des agences du système de l'ONU, une école de Kalemi a vu son effectif passer d'au moins 100 à plus de 600 élèves. Et puis, l'invité de ce midi, Kikuni Muzombo Toma, administrateur du territoire de Pangui dans le Maniema, il nous parle notamment de l'importance de la route qui vient d'être réhabilitée dans son entité, ce grâce à la taxe conventionnelle initiée par la province. Madame, Messieurs, bonjour. Des réactions sur la main tendue du chef de l'État congolais à son homologue rwandais. Revenons sur celle du gouvernement congolais. Pour Judith Suminwa, cette position du président Félix-Antoine Tshisekedi se justifie par le fait qu'il est en quête permanente du retour de la paix et le chef de l'État ne cesse de ménager des efforts pour assurer la stabilité et le développement de la RDC. La première ministre s'est exprimée ainsi au cours de la réunion du Conseil des ministres qu'elle a présidée vendredi à Kinshasa. On écoute à ce sujet le ministre Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, propos sélectionnés par Grace Amzati.
L'appel lancé par le président de la République à son homologue rwandais vise essentiellement l'arrêt des violences et les développements économiques de la région de Grand Lac, en ce que c'est lui qui parraine et qui soutient les M23. La première ministre chef du gouvernement a engagé par ailleurs le gouvernement à en prendre en compte la volonté exprimée par le président de la République au cours de ces forums, celle de voir la République démocratique du Congo s'est positionnée comme la destination stratégique de premier plan pour les investissements européens, notamment dans les projets d'infrastructures, d'énergie et des transitions vertes, mais aussi dans un cadre de partenariat bilatéral gagnant-gagnant avec tout pays désireux de développer de projets structurants mutuellement bénéfiques.
Par ailleurs, la RDC obtient l'engagement de l'Union européenne à appuyer les projets du corridor vert Kinshasa-Kivu, le projet INGA et le développement d'une zone économique spéciale dans l'industrie des données numériques, annonce du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, à l'issue d'une réunion stratégique avec le commissaire européen aux partenariats internationaux, Joseph Sikela, et le conseiller du président américain pour l'Afrique, Massad Boulos. Cette réunion s'est tenue en marge du forum Global Gateway qui s'est clôturé vendredi à Bruxelles. Le ministre Julien Paluku explique dans ses propos sélectionnés par Jean Gando.
En 2024, on avait annoncé la mobilisation de 300 milliards d'euros, mais à la date d'aujourd'hui, on est déjà à 306 milliards d'euros destinés à l'Afrique. Et pour la RDC, tout le monde a suivi le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a axé sa communication autour des quatre grands projets, le Corridor de Lobito, les corridors verts, les projets INGA, mais également la construction d'une zone économique spéciale dédiée spécialement à l'industrie des données, parce que le numérique aujourd'hui prend de la place dans le monde entier. Nous avons participé à plusieurs panels, notamment avec les commissaires européens en charge des partenariats internationaux, le commissaire Sikela, mais également les directeurs généraux en charge de ces partenariats internationaux pour voir de quelle manière la RDC va devoir bénéficier de ces financements à travers les projets qui ont été identifiés.
Signalons que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui est aussi coordonnateur de la Task Force RDC Union européenne, a également pris part à la réunion entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen. Plusieurs projets de développement y ont été abordés. Pendant ce temps, le ministère de l'Intérieur et Sécurité alerte sur la persistance d'actes criminels commis par la rébellion FCM23 soutenue par le Rwanda dans les zones sous occupation dans l'est du pays. Dans un communiqué publié hier samedi à Kinshasa, Jacquemain Chabani affirme que plus de 272 cas d'assassinats et d'exécutions sommaires ont été enregistrés durant le mois de septembre dans cette région. Il dénonce cette multiplication d'atteintes à l'autorité coutumière, des violations massives des droits humains, d'exactions contre les civils ainsi que d'extorsions organisées dans les secteurs éducatifs et sanitaires, des allégations rejetées par l'FCM23. D'autres détails avec Grace Hamzati.
Le communiqué souligne que plus de 300 cas de viol, plus de 300 cas de torture corporelle, y compris des élèves, des cas d'arrestation arbitraire dans des conditions inhumaines, des centaines de cas d'enlèvement et de recrutement forcé, des incendies de maisons, ainsi que plusieurs cas de pillage ont été enregistrés durant le mois de septembre 2025. Les cas les plus saillants sont le recrutement forcé dans le quartier Nderere ainsi que les bombardements des habitations dans les territoires des Rutshuru, Walikale et Masisi, précise le communiqué. Le gouvernement congolais dénonce également la persistance dans la mise en place d'une administration parallèle qui affecte le pouvoir coutumier à travers la transformation des entités coutumières en centres et cités ainsi que l'installation des chefs coutumiers illégaux. Le communiqué ajoute que les hôpitaux publics et privés, les écoles et les orphelinats sont également soumis à des taxes et impôts, compromettant ainsi l'accès aux soins et mettant en danger la vie des malades. En réaction sur son compte X, Benjamin Bonimpa, cadre de l'AFCM23, qualifie ces accusations d'un chapelet de mensonges qui fait honte et pousse à remettre en cause la légitimité de tous les détenteurs d'une quelconque responsabilité dans la partie sous administration de Kinshasa, écrit-il.
De son côté, le conseiller pour l'Afrique du président des États-Unis, Massad Boulos, salue l'appel des FARDC invitant toutes les factions des rebelles rwandais FDLR à déposer les armes et à s'y rendre. S'exprimant hier sur son compte X, Massad Boulos estime que cette initiative constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington renforcé par l'ordre opérationnel signé le 1er octobre. Selon lui, je le cite, cette étape décisive fait progresser la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington, facilite le rapatriement, rétablit l'autorité de l'État et renforce la stabilité dans la région des Grands Lacs. Fin de citation. Rappelons que dans un communiqué publié vendredi, les FARDC précisent qu'en cas de résistance ou de refus d'obtempérer, l'armée procédera conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington au désarmement par contrainte ou par usage de la force des combattants FDLR. Direction la province du Tanganyika, je vous l'ai dit dans les titres, l'école Okoko, située à 16 km au nord de la ville de Kalemie, a vu son effectif passer d'au moins 100 à plus de 600 élèves, une progression spectaculaire rendue possible grâce à la construction des nouvelles salles de classe par l'Organisation internationale pour les migrations OIM et à l'installation d'une cantine scolaire soutenue par le PAM et l'UNICEF. Cette école a été bâtie dans le cadre du projet de promotion des solutions durables pour les populations affectées par les déplacements dans la province du Tanganyika. Blaise Makassinandes, reportage.
La construction de l'école permet désormais à des centaines d'élèves d'éviter des longs trajets pour étudier. Elle contribue aussi à réduire significativement le taux de déperdition scolaire. Destin Senga de l'OIM salue l'impact de cette initiative.
Cette initiative a permis aux enfants d'accéder à une éducation de qualité et à l'accroissement du taux de fréquentation des écoles a augmenté. Jadis, s'il n'y avait pas d'école ici, les enfants devraient faire plus de 5 km pour aller trouver des écoles.
Pour Oscar Kyungu, directeur d'école, les infrastructures ne sont qu'un début. Il souligne les rôles joués par les autres agences des Nations Unies, notamment le PAM et l'UNICEF, qui ont permis, à la suite de la mise en place de la cantine scolaire et des jardins scolaires, une nette amélioration du taux de scolarisation.
Nous avons PAM qui nous appuie avec la cantine scolaire pour un peu améliorer les conditions nutritionnelles des enfants. Oui, c'est très important parce que ça donne l'accessibilité aux enfants de venir à l'école. Auparavant, quand l'école était en paille, on recevait peu d'enfants. C'est 120 enfants, mais aujourd'hui nous sommes arrivés jusqu'à 600, mais les élèves continuent toujours à venir à l'école.
Le directeur plaide aujourd'hui pour la mécanisation de l'école avec une prise en charge effective des enseignants par l'État. Depuis Kalemie, Blaise Makassi, Radio Okapi.
Parlons toujours de l'éducation. Hier, 11 octobre, le monde a célébré la Journée internationale de la fille. Instituée par les Nations unies en 2011, cette journée vise à promouvoir les droits des filles, notamment leur autonomisation à travers l'éducation, la santé et la lutte contre les mariages précoces et les violences basées sur le genre. À cette occasion, Isabelle Pendeza, présidente du collectif des associations féminines pour le développement CAFED au Nord Kivu, appelle à faciliter l'accès à l'éducation pour les jeunes filles congolaises. Selon elle, de nombreuses filles n'ont actuellement pas accès à l'école alors que l'éducation ne devrait pas être un privilège. Isabelle Pendeza est jointe par Martial Papimukeba.
Aujourd'hui, nous levons nos voix pour ces filles du Nord Kivu. Ces filles qui grandissent sous les bombes, dans des camps de déplacés, qui sont exposées à toute forme de violence et d'inégalité. Elles n'ont plus accès à l'éducation scolaire, à la santé et à la protection. Ces filles qui subissent plusieurs formes de violence, elles abandonnent le chemin de l'école et elles sont exploitées sur le plan domestique, économique et dans diverses manières. Cette journée doit nous rappeler l'urgence de protéger toutes les filles, en particulier les filles qui vivent dans des conditions de vulnérabilité, surtout dans notre zone de crise. Et en insistant sur le droit à l'éducation, à la santé, à la sécurité, à l'éducation, cette journée, c'est un cri d'alarme et une occasion pour notre engagement tous de protéger les filles du Nord Kivu, leur garantir un avenir meilleur et les considérer comme des actrices principales de paix et de développement. Investir dans une jeune fille, c'est investir dans un environnement pour un avenir stable.
Le ministre des Droits humains s'engage à travailler en étroite collaboration avec les défenseurs des droits de l'homme dans un dialogue permanent. C'est l'une des recommandations du premier Forum national des droits humains qui s'est clôturé samedi à Kinshasa. Samuel Mbemba a demandé aux participants de conjuguer les efforts pour la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Le compte-rendu de Blaise Shindani Kambala.
Au cours de la cérémonie de clôture, le ministre Samuel Mbemba Kabuya a affirmé que cette première édition du Forum national inaugure une ère nouvelle, celle d'un dialogue permanent entre le gouvernement et les autres acteurs du secteur des droits humains.
Vous, défenseurs des droits humains relevant de la société civile, moi, défenseur des droits humains officiel, désormais, nous allons travailler ensemble. Le ministère qui est désormais le vôtre recevra les défenseurs des droits humains chaque mardi. Ça sera votre jour.
Dans le même ordre d'idées, le ministre en a profité pour mettre en garde quiconque tenterait de violer les droits des Congolais.
Celui qui violera les droits des Congolais, qu'il soit congolais, quel que soit son rang, qu'il soit étranger, quel que soit son statut, nous trouvera sur son chemin.
Aussi, il a demandé aux participants de ne pas oublier le combat pour la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo et pour la justice transitionnelle.
Rendons-nous en Ituri. Une attaque des rebelles ADF a visé hier un convoi des militaires ougandais au village de Ndeissa. C'est sur l'axe Komanda Mambasa, le long de la route nationale numéro 4 dans le territoire d'Irumu. Le bilan provisoire fait état des deux soldats ougandais tués et d'un véhicule de l'armée incendié. Les militaires ougandais ont riposté et les combats se poursuivent encore dans la zone, rapportent des sources sur place. De nombreux habitants ont quitté leur village, tandis que le trafic est très timide sur cet axe routier, indiquent les mêmes sources. Récit des faits avec Isaac Remoyope.
Un convoi des militaires ougandais en route vers leur base de Mungamba, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Bunia dans le territoire d'Irumu, a été attaqué samedi par un groupe de rebelles ADF au village d'Ndeissa sur la route nationale numéro 4. Les assaillants ont ouvert le feu sur le convoi, tuant des militaires ougandais sur place. Selon plusieurs sources, un véhicule de l'armée a été incendié, tandis que d'autres parlaient de deux camions militaires réduits en cendres. Les rebelles ont également mis le feu à une maison d'habitation. Les forces ougandaises ont riposté immédiatement et ont poursuivi les assaillants dans la forêt où les affrontements se poursuivent encore. Le bilan du côté ennemi n'est pas encore connu. De leur côté, de nombreux habitants ont fui vers l'Olwa Centre et Mungamba où les activités économiques sont restées paralysées après l'attaque. Le trafic sur la RN4 reste également très limité en attendant la fin des opérations de ratissage menées par les militaires ougandais pour sécuriser la zone. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, plus de 50 hangars calcinés, pas de dégâts humains fort heureusement. C'est le bilan de l'incendie survenu hier samedi aux environs de 21h au petit marché des meubles ou les ateliers des menuiseries du quartier Binza, lieu situé à l'endroit appelé site météo dans la commune de Ngaliema ici à Kinshasa. À la base, un réchaud d'un voisin qui a pris feu et le propriétaire voulant s'en débarrasser l'a jeté sur la toiture d'un des hangars de la menuiserie et le feu s'est rapidement propagé. Suivez en exclusivité le témoignage d'une victime, maître Guy Mayombo, qui sollicite en même temps une aide du gouvernement. Ses propos sont recueillis par Lievin Bouingavoubou.
Il y a une parcelle voisine que nous partageons le mur avec laquelle famille organisée une réception était appelée à cuire leur aliment avec un réchaud à gaz. C'est ce réchaud qui avait pris feu en voulant se débarrasser du réchaud à gaz. Maladroitement, ils ont jeté sur les toits des ateliers des menuisiers. Sachant que les menuisiers travaillent avec les objets qui sont très combustibles, je peux dire, comme la mousse, la colle, voilà d'où est parti l'incendie. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, gloire à Dieu, il n'y a pas eu de dégâts humains, il y a eu plus de 50 hangars calcinés. Certes, le camion anti-incendie s'est présenté, mais 2h30 après la déclaration de l'incendie. Fort étonné, ils sont venus avec un camion vide. Il a fallu dans un deuxième temps l'intervention du camion de Nations Unies.
Direction la province de la Tchopo. La fondation Lukuru, en collaboration avec le ministère provincial de l'environnement, s'investit dans la réhabilitation de la faune dans cette province. Cette organisation environnementale a procédé hier au relâchement de 16 perroquets gris et verts gardés dans quelques volières érigées dans le jardin botanique et zoologique de Kisangani. Mais quelle est l'importance de ce geste, Jacques Moukonkole?
Au total, 16 perroquets gris et verts sont relâchés dans la nature. 71 autres attendent de réunir les conditions requises pour être relâchés également à leur tour le moment venu. Pour John Hart, directeur de la Fondation Lukuru, l'ONG qui s'occupe de la protection des perroquets, ce geste marque la détermination à réhabiliter la faune locale.
Ça montre la dédication de beaucoup des individus, le courage et l'implication fondamentale de l'administration et aussi la participation de la communauté à côté.
Les perroquets relâchés font partie des 87 ayant résisté sur les 100 idées gardées dans les volières. Depuis le mois de mai dernier, ils avaient été récupérés entre les mains des personnes qui s'adonnent au commerce illicite de cette espèce faunique pourtant protégée. Pour la ministre provinciale de l'Environnement, Bijou Koitaka, ceci est une preuve que le gouvernement provincial tient à restaurer la dignité faunique de cette entité.
Ces processus, conduits avec l'appui de la Fondation Lukuru, traduit la détermination du gouvernement provincial à l'affaire de la Tchopo, une modèle en matière de protection de la biodiversité.
Après cette opération test, l'heure est actuellement à la sensibilisation de la population et des contrôleurs de l'ICCN afin d'accompagner ce processus. Objectif, pérenniser cette espèce en voie d'extinction. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. Présidentielle au Cameroun, début des opérations de vote aujourd'hui. 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leur nouveau président à l'occasion d'une élection qui se déroule en un seul tour. Le président sortant, Paul Biya, grand favori du scrutin face à une opposition très divisée, brigue un huitième mandat. Le président malgache Andry Rajoelina a déclaré ce dimanche qu'une tentative de prise de pouvoir illégale et par la force était en cours. Un contingent de l'armée malgache affirme de son côté avoir pris le contrôle des forces armées du pays, ce après avoir rejoint la veille les manifestants anti-gouvernementaux et appelé les forces de sécurité à refuser les ordres.
L'invité.
Il s'agit de Kikuni Muzombo Toma, administrateur du territoire de Pangui dans le Maniema. Cette entité vient de bénéficier de 350 km de routes réhabilitées grâce à la taxe conventionnelle initiée par la province. Dans cet entretien avec Florence Kizalunga, il explique l'importance de la route réhabilitée pour les habitants de Pangui.
Kikuni Muzombo Thomas, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Vous êtes bénéficiaire de plusieurs kilomètres de routes qui ont été réhabilitées par Opermont sur base de la taxe conventionnelle. Dites-nous, quelles sont tes impressions par rapport à cette ouverture?
Mes impressions sont tellement très bonnes parce que nous étions vraiment enclavés. Nous n'avions pas vraiment l'accès à la voie de sortie vers Kindu, vers Kalima, parce que les routes étaient dans un état de délabrement très avancé. Mais avec Copperman, appuyé par le gouvernement provincial et l'assemblée provinciale, nous venons d'obtenir dans les territoires de Pang plus de 350 kilomètres réhabilités. Réhabilités par méthode IMO.
Nous avons appris que les tronçons Nyoka-Pangi, ça fait plus de 40 ans que le véhicule n'est passé pas là-bas.
Ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, 40 ans se paie. Ça peut même être 50 ans que le véhicule n'est passé plus là-bas. C'est une joie aussi immense pour notre territoire parce que Kindu, Nyoka, Sabiazo, jusqu'à Pangi Centre, c'est 107 kilomètres. Et bien avant, quand on voulait partir vers Kindu, on prenait la route Pangi Centre, Lubi, Kalima jusqu'à Kindu, qui était au-delà de 226 kilomètres. Alors là-bas, nous voyons vraiment, c'était un raccourci. Vous pouvez faire un aller-retour, même trois fois.
Et quelle est l'importance de cette route Nyoka-Pangi pour vous ici dans les territoires de Pangi?
L'importance, comme je venais encore de le souligner, c'est un raccourci, parce que c'est 107 kilomètres. Et notre population aussi aura la possibilité de faire les débouchés de leurs produits. On peut les acheminer facilement au niveau de Kindu.
Je pense que la joie de la population est tellement grande de voir les véhicules rouler sur une route qui était impraticable durant plus de 40 ans.
Certainement, madame la journaliste, la population est tellement joyeuse. Avec le passage de ces véhicules là-bas, il y avait des enfants qui étaient nés sur ces tronçons qui n'ont jamais vu un véhicule. C'était pour la toute première fois que ces enfants voir les véhicules. Alors, c'était vraiment quelque chose qui a réellement donné la joie à notre population.
Et c'est comme ça qu'ils ont envoyé même certains fuyés. Et c'est par peur?
Ah oui, par peur, parce que ils n'ont jamais vu les véhicules. Depuis leur naissance, ils ne se sont jamais déplacés à Kalima, à Kindu, où ils pouvaient voir les véhicules facilement.
Ça fait plus de 40 ans, les véhicules ne roulaient pas, la route n'était pas praticable. Aujourd'hui, la route est praticable, vous êtes connecté au chef-lieu de la province. Quelle sera la contribution de l'administrateur pour le maintien de cette route?
Effectivement, nous allons mettre des réunions, des sensibilisations avec tous les chefs de groupement et tous les chefs de village à ce qu'ils maintiennent la réhabilitation de cette route-là, pour que ça ne puisse plus retomber sur les points de départ.
Vous n'êtes pas de l'avis de ceux-là qui pensent que la taxe conventionnelle est une tracasserie?
En tout cas, je ne suis pas de cet avis parce que la taxe conventionnelle pour nous c'est un salut, parce que avec ce niveau qu'on vivait, il était tellement difficile à ce que les véhicules puissent atteindre Pangi Centre. Vous voyez, au niveau de Pangi Centre, nous n'avons même pas de l'eau, mais au niveau de Kindu là-bas, il y a un véhicule là-bas de 22 tonnes qui devrait nous créer des forages, mais comme il n'y avait pas de route, l'accès était impossible. On n'a pas aussi une antenne cellulaire d'une grande capacité. Tous ces gens là-bas disaient seulement, parce qu'il n'y a pas de route, comment est-ce que nous allons transporter tous ces matériaux là-bas? Mais pour aujourd'hui, tout ça sera maintenant facile.
Comme c'est bénéfique et c'est un salut pour vous, les habitants de Pang, qu'est-ce que vous dites? Quel message que vous adressez à toute la communauté?
À toute la communauté du territoire de Pang, d'appuyer cette initiative de son excellence monsieur le gouverneur pour les taxes conventionnelles, parce que à partir des taxes conventionnelles que nous venons encore de désenclaver notre territoire.
Kikuni Muzombo Thomas, merci.
Merci madame la journaliste Florence Kizalunga.
Voilà, c'était là notre invité, l'administrateur du territoire de Pangi dans le Maniema. Par ici prend fin ce journal mis en onde par Alain Goy. À partir de 13h de Kinshasa, retrouvez Lievin Mbuinga Vubu pour la suite de l'actualité. Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix.